Vous êtes sur RTL.
RTL Matin.
RTL 7h43, l'endométriose touche une femme sur 10 au moins en France. Elle publie un livre dans lequel elle raconte son combat et sa décision de subir une ablation de l'utérus. Amandine Bégou, vous recevez donc ce matin la chanteuse Laurie Pester.
Laurie, cette maladie, elle touche, et Yves le rappelait, une femme sur 10 en âge de procréer et elle reste encore trop peu prise en charge. On va parler bien sûr de votre livre dans un instant, mais peut-être qu'il faut rappeler ce qu'est l'endométriose pour ceux qui ne le sauraient pas et qui nous écoutent ce matin.
Alors l'endométriose, c'est une maladie chronique de femmes. En fait, il y a des tissus d'endomètre qui se propagent dans des endroits où il faut pas, où ils n'ont pas le droit d'aller normalement. Et en fait, ça provoque des fortes douleurs parce que pendant les règles, il y a une inflammation. Et voilà, en fait, les symptômes, ça peut être des douleurs très très fortes pendant les règles, des douleurs pendant les rapports sexuels, des douleurs pendant quand on va aux toilettes, des douleurs quand on reste trop longtemps debout, trop longtemps assise, des problèmes digestifs aussi. Donc voilà, c'est une maladie de femme.
Une maladie de femme, et c'est peut-être pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup, ou qu'on en parle de plus en plus, mais que pendant des années, on n'en a pas parlé. Ces douleurs, et c'est vraiment la particularité de cette maladie, vous les décrivez extrêmement bien dans votre livre. C'est pas des petites douleurs de règles, comme non. On a entendu pendant des années. C'est des douleurs qui vous terrassent littéralement.
Oui, c'est ça. C'est des douleurs atroces qui, à chaque fois, je perdais connaissance à cause de ça. Mon corps disait stop, c'est trop douloureux. Donc.
Vous racontez un moment dans le livre, ce jour où vous aviez un rendez-vous dans un café, il vous faut juste traverser la rue pour aller prendre un taxi.
Oui.
Pour rentrer chez vous et enfin essayer de vous reposer, vous accrocher carrément au feu de signalisation. Quoi.
Oui, parce que je suis à deux doigts de tomber, j'ai plus de force, j'ai trop mal, j'ai tellement mal que je suis pliée en deux. Et en fait, juste traverser la rue devient pour moi, c'est une épreuve de Koh-Lanta, quoi. Parce que c'est loin, je pense que je peux pas y arriver. Donc à un moment donné, je me lâche, j'essaye d'y aller, je compte les bandes blanches et surtout je vois dans le regard des gens qui me reconnaissent, et ils sont en train de se dire mais elle a pris de la drogue ou quoi. Donc il y a ça aussi, il y a comment gérer la maladie et comment gérer la célébrité, les gens qui nous regardent autour, quoi. Je me suis dit oh là là, ce soir je vais être le sujet de discussion, quoi. Ça va être.
Ce sont des douleurs plus fortes que pour un accouchement. Celles qui ont accouché reconnaîtront
cet
accouchement sans péridurale, je précise.
C'est ça.
Mais c'est plus fort, vraiment. Moi, j'avais un médecin qui me l'avait dit, c'est vraiment vrai.
Exactement. Quand juste avant que j'accouche, j'étais donc dans la salle à attendre et les sages-femmes venaient me voir et elles regardaient le monitoring avec le trait qui montait très très haut. Et elles me disaient, mais. « Waouh, vous avez des contractions de dingue, là. Vous voulez pas quelque chose, un petit truc pour vous soulager et tout ?» Je fais « Ah, c'est ça, les contractions ?» Non, franchement, merci, ça va. Tout va très bien.
Il n'y a pas de traitement, on ne guérit pas de l'endométriose. Il faut bien le dire pour toutes celles qui nous écoutent et tous ceux qui nous écoutent, d'ailleurs, chaque cas est très différent et les options qui sont proposées pour soulager la douleur varient. Dans votre cas, ça a été assez radical, puisque ça a été une hystérectomie, c'est une ablation de l'utérus.
Oui.
Vous dites que c'est la décision la plus difficile de ma vie.
Oui, jusqu'à présent, ça a été la décision la plus difficile de ma vie, parce que c'est une opération irréversible. Et donc, c'est vrai que d'un côté, il y a la douleur, de l'autre côté, il y a pouvoir refaire un enfant. Donc, c'est une décision qui ne se prend pas à la légère, quoi. Donc, même si avec mon compagnon, on avait déjà beaucoup discuté et qu'on ne voulait pas d'autres enfants... ça a été quand même une décision pas évidente parce qu'entre le je peux
et je ne veux pas
et
je
ne peux plus, c'est pas la même chose, quoi.
Et vous listez d'ailleurs dans le livre toutes ces tas de choses que vous ne pourrez plus faire. Je ne pourrai plus jamais mettre la main sur mon ventre arrondi en imaginant sa petite bouche. Je ne pourrai plus jamais utiliser la caisse prioritaire dans les magasins, me réveiller le matin avec la nausée ou encore verser une petite larme quand le gynécologue nous fait écouter son petit cœur qui bat. Mais, et il y a un mais, un immense mais, j'ai envie de vous dire. Vous écrivez aussi, je peux me lever le matin sans douleur, sans problème, je peux porter ma fille, faire du sport, courir toute la journée après un planning surchargé, bref, je revis. Ça a été une libération, en fait, cette opération.
Pour moi, oui, ça a été une libération. Ouais, ouais. Et souvent, on me dit, ouais, quand même, revivre comme titre pour ton livre, c'est quand même fort. Et je dis, oui, mais c'était ça. C'est-à-dire que avec ces douleurs, c'était pas, je ne vivais pas, je survivais. J'étais là sans être là, alors qu'aujourd'hui, j'ai réappris à vivre vraiment sans douleur.
Ça vous a pourri la vie, vraiment?
Ah, ça m'a pourri la vie. C'était comme une colocation. En fait, la douleur avait pris possession de mon corps et j'étais obligée de vivre avec et d'adapter toute ma vie par rapport à cette douleur. Ouais, ça m'a pourri la vie, vraiment. Et aujourd'hui, je revis, vraiment. Et c'est le mot.
Alors, toutes les femmes qui souffrent d'endométriose ne se verront pas prescrire une ablation utérus, hein, faut préciser. Et c'est pas parce qu'on a de l'endométriose qu'on ne peut pas avoir d'enfant. En revanche, il faut dire à toutes les femmes qui souffrent qu'il faut consulter. Et alors, trouver le bon médecin entre nous, c'est pas facile. Vous racontez notamment, parce qu'ils sont pas tous très très sympathiques, ni très... voilà, vous racontez. C'est même pas, on me souffle compétent dans l'oreille, non, c'est plutôt...
dans l'écoute
pas,
et...
Voilà, pas vraiment compréhensif.
Bienveillant.
Bienveillant, merci, merci. Yves. Ce radiologue, par exemple, Laurie, chez qui vous allez pour une IRM, donc c'est l'examen qu'il faut faire pour poser le diagnostic, et il vous dit « Oh, faut arrêter avec cette maladie à la mode. »
Oui, cette maladie à la mode. Ouais. Ça m'a choquée. Et sur le coup, j'ai pas su quoi lui répondre, tellement je suis restée sous le choc. Mais une maladie à la mode, enfin, c'est comme si on faisait exprès d'être malade pour être à la mode.
Oui, ou que c'était dans la tête.
Oui, c'est ça, exactement. Et donc, ce fameux radiologue me dit, oui, ça va, bon... Moi, j'avais plein de questions, j'avais plein de doutes, j'étais stressée. Mmh. Il me parlait mal, il me répondait des phrases comme ça. Et en plus, il me dit, oui, ça va, bon, vous en avez un petit peu, mais pas besoin de vous faire opérer, vous allez pouvoir vivre avec et tout ça. Et finalement, non, il avait complètement tort. Parce que quand j'ai envoyé les images au professeur Roman qui me suit aujourd'hui, il a vu les images, il m'a dit « mais il faut vous opérer d'urgence en fait ». Et ça faisait déjà 8 mois que j'avais fait l'IRM. Donc voilà, faites attention les filles, si vous avez des professionnels de santé en face de vous qui ne vous croient pas, qui ne vous écoutent pas.
Alors même qu'il y a l'image, pour le coup là.
Oui, alors qu'il y a l'image, ouais. Changez, allez voir un autre avis. Voilà, ça, il faut.
Et c'est l'une des spécificités aussi de cette maladie, c'est qu'elle met souvent beaucoup de temps à être diagnostiquée.
7 ans.
7 ans en moyenne, c'est énorme. Ça veut dire 7 ans de souffrance.
7 ans de souffrance, 7 ans. La maladie peut se propager en 7 ans, enfin énormément, et ça peut faire énormément de dégâts en 7 ans. Mais là, avec le test salivaire qui pointe le bout de son nez, j'espère que ça va se mettre en place rapidement, parce que ça pourrait diminuer cette année.
Vous évoquiez le professeur qui vous suit aujourd'hui. Alors là, vous avez les yeux qui brillent quand vous en parlez.
Je l'adore. Il a changé ma vie.
Non, mais il y en a des médecins comme ça. Et il faut le dire, on a parlé de ceux qui sont pas très 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 sympas.
Mais il y en a aussi, de ceux qui sont top, qui sont à l'écoute, qui sont là pour vous et qui veulent vraiment vous aider, quoi. Et le professeur Roman, c'est ça.
Chaque cas, je le disais, est complètement différent. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à celles qui se posent justement des questions à qui on propose, comme vous, des traitements assez radicaux et qui ne savent pas? C'est très personnel comme décision.
C'est très personnel. Je pense que déjà, si ces femmes ont des compagnes ou des compagnons, bah évidemment, en parler avec eux en premier, parce que c'est quand même aussi avec eux qu'elles vivent. Mais écoutez les avis, bien sûr, de nos proches. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'en ai parlé à mon compagnon, à mes amis, à ma famille. Mais au final, c'est elles qui détiennent la réponse. C'est elles qui sentent ce qu'il y a dans leur corps, dans leur tête, comment elles se sentent. Donc la décision leur appartient. Ouais.
Merci beaucoup, Laurie Pester. Je rappelle donc le titre de ce livre.